Bonjour à tous. Aujourd'hui, enquête sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron. Après nos révélations sur les prix cassés et les nombreuses ristournes accordées par certaines entreprises pendant la présidentielle à l'homme qui est aujourd'hui à l'Élysée. Pourquoi ces ristournes sont passées sous les radars de l'autorité de contrôle? Ces rabais peuvent-ils être considérés comme des aides illégales au candidat Macron? On va voir tout ça en détail avec vous, Élodie Guéguin et Sylvain Tronchet. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Benoît.
Bonjour Benoît.
Et puis nous recevrons Tristan Thil. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous publiez une BD enquête sur le premier secret d'État de la France-Afrique, un rapport explosif sur le système colonial français, un rapport qui avait disparu et que vous faites revivre aujourd'hui.
France Inter, secret d'info, Benoît Colombat.
Les financements, ils ont essayé avec la polémique de Bercy, ils ont compris que ça n'irait pas loin. Ils vont essayer maintenant de dire qu'on est financé de manière occulte, ça n'ira pas loin non plus, nous respectons toutes les règles, avec un grand professionnalisme qui est tenu par l'équipe et je l'en remercie, et les comptes de campagne seront tenus au cordeau.
Voilà, c'était le 6 février 2017 sur la scène de Bobino, un théâtre parisien. Le candidat Emmanuel Macron jure devant ses partisans que ses comptes de campagne seront tenus au cordeau, c'est-à-dire en respectant toutes les règles. Nos révélations cette semaine à la cellule investigation de Radio France ont pourtant mis en lumière des anomalies très importantes, avec des ristournes pouvant aller jusqu'à 75% sur des locations de salles et de matériel. On va y revenir en détail avec vous, Élodie Guéguin et Sylvain Tronchet. Mais d'abord, Sylvain, revenons sur ces fameuses factures de la campagne d'Emmanuel Macron qui ont tout déclenché. Ces factures, vous les avez épluchées.
Oui, et je vais vous raconter comment cela s'est passé, parce que cela vaut le détour. Hein. Il faut savoir que pour consulter les comptes d'un candidat, c'est une véritable expédition. D'abord, il faut prendre rendez-vous au siège de la Commission nationale des comptes de campagne, à Paris. C'est l'autorité qui certifie les comptes des candidats. Pour être parmi les premiers, il faut prendre rendez-vous parfois des mois à l'avance. Et nous avions donc un créneau le 23 mai. Nous sommes partis à 5 parce qu'on nous a remis plus de 20 000 factures et documents et nous n'avions que 3 heures pour toutes les regarder dans une pièce fermée. Pour l'anecdote, il est interdit de photographier les documents. Il faut donc demander une par une les photocopies. Nous en avons fait faire 1300 que nous avons payées en bonne et due forme à l'administration, pas loin de 200 euros. Et nous sommes repartis avec une dizaine de kilos de factures. C'était en fait le seul moyen pour pouvoir travailler ensuite.
Bon, et ce que vous avez découvert, Sylvain, dans ces factures, ce sont des ristournes que la commission des comptes de campagne, elle, n'a pas repérées.
Oui, et notamment sur les locations de salles. Prenons par exemple le meeting d'Emmanuel Macron à Bobino, le 6 février 2017. La facture que nous avons trouvée est de 3 000 euros, tout rond. Alors, ce tarif a attiré notre attention, hein, parce qu'il paraît plutôt bon marché pour une salle prestigieuse, une salle de 700 places. Donc nous avons appelé Bobino pour savoir combien nous coûterait une soirée comme celle d'Emmanuel Macron. Et écoutez la réponse.
Sur la base d'un théâtre comme Bobino, on serait sur une base de 11 000 hors taxes.
Ça, c'est le tarif standard que vous pratiquez, quoi.
Le tarif de base, après, s'il vous faut de la vidéoprojection, des machins, tout ça, ça sera en plus par rapport au prix de location.
11 000 hors taxes, c'est-à-dire au minimum 13 000 euros TTC. Emmanuel Macron, hein, pour mémoire, a payé 3 000 euros. Le candidat d'En Marche aurait donc bénéficié d'au moins 75% de ristourne.
Oui, donc vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment apparemment un prix cassé pour une location de salle, mais il y a autre chose qui vous a intrigué.
Oui, parce que cette facture du meeting de Bobino, elle est très inhabituelle, extrêmement sommaire. Il n'y a qu'une seule ligne avec ce prix, 3 000 euros. Rien sur l'éclairage, la sécurité, les prestations techniques, enfin, toutes ces options qu'on voit normalement apparaître sur ce genre de facture.
Et vous avez trouvé une autre facture quasiment identique à celle-là.
Oui, pour un meeting, un mois plus tard, au Théâtre Antoine, même somme, 3 000 euros, même taille de salle et surtout, même propriétaire, un ami du couple Macron. D'ailleurs, ce soir-là, à la fin de la soirée, Brigitte Macron monte sur la scène et remercie très chaleureusement le maître des lieux.
Merci aussi Jean-Marc. Du monté. Je ne sais pas où est Jean-Marc qui nous a accueillis dans ce théâtre. Où est Jean-Marc ? Jean-Marc, merci. Magnifique théâtre Antoine. Merci.
Merci Jean-Marc. Jean-Marc, donc, c'est Jean-Marc Dumonté. C'est un personnage incontournable du monde du spectacle, propriétaire de plusieurs théâtres, président de la cérémonie des Molières. Jean-Marc Dumonté, c'est aussi un soutien public du candidat Macron. Certains le voyaient même ministre de la Culture.
Et ce Jean-Marc Dumonté, alors, vous l'avez contacté ?
Oui, et il conteste avoir fait un prix d'ami à Emmanuel Macron. Selon lui, c'est le mouvement En Marche qui a bien négocié le tarif.
Bon, d'accord, mais qu'est-ce qui empêche ce roi du théâtre parisien, s'il en a envie, de donner un coup de pouce à son candidat ?
Alors, en tant que citoyen, il a tout à fait le droit de le soutenir. Mais en tant que chef d'entreprise, il ne peut pas lui faire de cadeau. Une société n'a pas le droit d'accorder une aide financière à un candidat. Et selon le code électoral, des ristournes trop importantes, inhabituelles, sont considérées comme des dons déguisés. C'est un délit, il faut le savoir, puni de 3 ans d'emprisonnement.
Ça, c'est ce que dit la loi, mais dans les faits, comment on reconnaît une ristourne inhabituelle ?
Ah, ça, c'est la grande difficulté. Nous avons posé la question à Romain Rambaud, spécialiste du droit électoral et membre de l'Observatoire de l'éthique publique.
Les rabais sont autorisés s'ils correspondent à une pratique commerciale habituelle. S'il y a une pratique commerciale habituelle, il n'y a pas de don déguisé, donc il n'y a pas d'infraction. S'il y a une pratique commerciale inhabituelle, c'est un don déguisé, donc il y a une infraction. Là, on est dans une zone grise. En l'état du droit actuel, c'est une question qui n'est pas réglementée de façon précise, et donc il y a une marge d'appréciation de la commission.
Il y a une marge d'appréciation de la commission des comptes de campagne, dit ce spécialiste du droit électoral. Et dans le cas de ristournes vraiment importantes, comme celle que vous avez révélée avec Élodie Guéguin, comment expliquer que cette fameuse commission ne les ait pas jugées irrégulières ?
Alors, le problème, c'est que pour évaluer le niveau d'une ristourne, il faut partir d'un prix de base. Et ensuite, on calcule le montant qui a été déduit. Et le problème, c'est que pour la commission, il n'y a pas de prix de base pour ce qui concerne, par exemple, les locations de salles. Son président, François Laugereau, s'en est expliqué lors d'une conférence de presse.
Dans le domaine particulier de la communication et de ce qu'on appelle l'événementiel, c'est-à-dire notamment l'organisation de réunions publiques, il n'y a pas véritablement de prix de marché. Il y a des prix du marché à certaines périodes pour certaines prestations.
Donc ce qu'on comprend, c'est que pour le président de la commission des comptes de campagne, il n'y aurait pas de prix standard permettant de savoir de manière claire si une prestation a été payée au juste prix. Ce serait donc impossible à vérifier ?
Si, par exemple, on peut comparer les prix payés par les différents candidats lorsqu'ils passent dans les mêmes salles. Ça arrive souvent sur une campagne. Nous, c'est ce que nous avons fait, par exemple, pour des réunions publiques à la Bellevilloise, une salle du 20e arrondissement de Paris. L'équipe d'Emmanuel Macron l'a louée pour une réunion publique le 2 mai 2017. Montant de la facture, 1200 euros tout compris. Or, cette même salle a été utilisée par Benoît Hamon 2 mois plus tôt, le 20 mars, quasiment dans les mêmes conditions. Mais Benoît Hamon a payé 4 fois plus cher, 4838 euros.
Oui, et le propriétaire de la salle, de la Bellevilloise, il en dit quoi, lui ?
Eh bien, il se défend d'avoir fait un tarif spécial Macron. Mais en revanche, il ne peut pas nous expliquer pourquoi En Marche payait toujours la même somme, 1200 euros, tout rond, à chaque événement du mouvement organisé dans sa salle, alors que les autres payaient plus cher.
Alors je me tourne maintenant vers vous, Élodie Guéguin, parce que dans toutes ces factures que vous avez épluchées avec Sylvain Tronchet, il n'y avait pas que des gros meetings parisiens.
En effet, il y a par exemple cette soirée à Lyon, organisée par En Marche le 7 septembre 2016. 700 personnes sont réunies sur une très belle péniche. Gérard Collomb est chez lui. Le maire de Lyon, futur ministre de l'Intérieur, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, mobilise ses réseaux. Ambiance festive et militante, raconte ce soir-là le journal de France 3.
Les socialistes lyonnais en marche pour Emmanuel Macron. Ils étaient nombreux hier soir à afficher leur soutien à l'ancien ministre de l'économie. Tous derrière Emmanuel Macron et tous derrière Gérard Collomb, le sénateur-maire de Lyon.
Vous voyez, on a essayé de faire un petit apéritif un peu festif pour que toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans la démarche d'Emmanuel Macron puissent se connaître, se rencontrer.
Voilà, se connaître, se rencontrer autour d'un apéritif un peu festif, dit à l'époque Gérard Collomb. Et pour quel tarif alors ce cocktail fluvial ?
Eh bien, En Marche a réglé une facture de 996 €. Là encore, pour un tel événement sur un très beau bateau, ça nous a semblé bizarre. Alors on s'est fait faire un devis pour louer cette péniche dans les mêmes conditions, un soir de semaine, au mois de septembre. Seulement à nous, on nous a demandé 3 fois plus cher pour la seule location du bateau.
Oui, donc en fait, le même constat que pour les locations de salles.
Oui, sauf que cette fois, il y a une ristourne qui apparaît sur la facture d'En Marche. Une remise exceptionnelle de 1 100 €. Ça signifie, vous imaginez Benoît, que la remise est plus importante que le prix global de la soirée, inférieur à 1 000 €. Interrogé, Gérard Collomb conteste tout geste commercial inhabituel.
Et la commission des comptes de campagne, elle s'est interrogée là-dessus ou pas ?
Eh bien non, à notre micro, son président a reconnu que ses collaborateurs étaient passés à côté de cette facture.
Personne n'est infaillible sur 10 000 pièces de compte sur 15 000 ou 20 000. Donc il n'est pas impossible, effectivement, que cette affaire leur ait échappé.
On ne peut pas tout voir, dit le président de la commission des comptes de campagne. Et il y a une autre ristourne, Élodie, qui n'a pas non plus attiré son attention au président de la commission. Et cette fois, elle concerne un logiciel.
Oui, il s'appelle Nation Builder. C'est un logiciel incontournable aujourd'hui dans les campagnes électorales, en France ou à l'étranger. Emmanuel Macron a obtenu 30% de ristourne sur son utilisation. Le contrat se trouve dans les Macron Leaks, ces milliers de documents, vous savez, internes à la campagne qui ont fuité dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Et dans ces documents, on comprend comment cette négociation s'est passée. Nous avons fait lire un échange de mails entre le responsable de la campagne digitale d'Emmanuel Macron et le vice-président Europe de Nation Builder.
Ok, les nouvelles sont très bonnes. On se fait un dernier call pour arrêter la bonne méthode de déploiement et les conditions contractuelles, la négociation, la ristourne, pour mes beaux yeux, mardi matin.
Je peux vous donner une remise de 30% en toute transparence. C'est le max que je peux donner.
Oui, un maximum de 30% accordé donc à l'équipe Macron, dit un responsable de la société du logiciel Nation Builder. Et pour les autres candidats, alors, ils ont eu les mêmes conditions ?
Alors, d'après nos informations, ceux qui ont fait appel à Nation Builder n'ont pas eu droit aux mêmes ristournes, ni au même traitement d'ailleurs. Aujourd'hui, quand vous allez sur le site de la société, vous tombez tout de suite sur la photo d'Emmanuel Macron avec cette légende « Les leaders des nations nous choisissent ».
Secret d'info sur France Inter.
Alors, on a vu comment Emmanuel Macron a bénéficié de très importantes ristournes sur certaines locations de salles appartenant à l'un de ses soutiens très influents dans le monde culturel, Jean-Marc Dumonté. On a vu comment à Lyon, Gérard Collomb a obtenu des prix défiant toute concurrence pour la location d'une péniche sur le Rhône pour soutenir son candidat. Tout cela n'a pas alerté la commission des comptes de campagne. Voyons maintenant, Sylvain Tronchet, comment une entreprise en particulier est parvenue à fidéliser, en quelque sorte, le client Macron.
Oui, cette entreprise, c'est Eurydice, une société spécialisée dans l'événementiel, l'organisation technique des meetings. Il y en avait beaucoup qui intervenaient sur la campagne Macron. Mais ce qui distingue Eurydice des autres, c'est que c'est un partenaire de la première heure et qu'il est là à chaque moment clé de la campagne du candidat, comme au Zénith de Nantes, le 19 avril 2017.
Merci à vous!
Voilà un instantané de la campagne électorale côté Macron dans sa dernière ligne droite. Et cette entreprise alors, Eurydice, elle aussi, elle a accordé des tarifs préférentiels?
Alors, pour la commission des comptes de campagne, non. Pourtant, la commission a bien tiqué à un moment sur une remise exceptionnelle de 2 900 € pour un meeting à Arras le 26 avril 2017. La commission a demandé des explications au patron d'Eurydice et voici ce qu'il répond. Nous avons fait lire sa lettre.
Je certifie avoir régulièrement recours à un système de remise exceptionnel pour mes clients, quel qu'il soit. C'est pourquoi l'association de financement de la campagne d'Emmanuel Macron s'est vue offrir une remise de 2 900 € hors taxes.
Oui, donc la société Eurydice explique que ces 2 900 € de rabais, c'est une remise très classique, qu'elle n'applique pas seulement au candidat Macron. Là, Sylvain, on parle d'une ristourne de 2 900 €. Ça semble pas énorme.
Non, ça n'est vraiment pas grand-chose hein, sur une facture globale de 60 000 €. Le problème, c'est que nous avons épluché cette facture également. Et nous trouvons un montant de remise commerciale bien supérieur.
Ah bon, mais comment ça?
Eh bien, regardez-la, voilà, cette facture. Elle fait 19 pages sur lesquelles figurent quasiment à chaque ligne des remises allant de 30 à 100%. Et donc, en tout... Au total, lorsqu'on additionne toutes ces remises, on arrive à plus de 22 000 € de rabais, alors que la commission, elle, bizarrement, ne s'arrête que sur une remise de 2 900 €.
Ça semble effectivement assez étonnant et c'est un exemple isolé ou pas ?
Eh bien, pas du tout. Hein. Dans la dernière ligne droite de la campagne, la société Eurydice a accordé pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de rabais, selon nos calculs, sans susciter la moindre question de la commission.
Voilà donc pour les ristournes accordées par cette société Eurydice. Et ce qu'il faut dire aussi, Sylvain, c'est que dans cette entreprise, il y a un homme qui compte beaucoup pour Emmanuel Macron.
Oui, cet homme, c'est Arnaud Jolens. Au début de la campagne, il est directeur commercial d'Eurydice. Il rencontre Emmanuel Macron, le courant passe, et il intègre l'équipe de campagne comme responsable événementiel d'En Marche. Une fonction bénévole pour la campagne, mais qu'il met quand même dans une position un peu délicate parce qu'il est, en même temps, celui qui commande les prestations et celui qui les fournit. Ce qui donne parfois lieu à une confusion des genres quand, par exemple, il lui arrive d'utiliser son adresse mail En Marche pour envoyer des factures de sa société Eurydice.
Et cet Arnaud Jolens, alors, en quoi il était si important dans le dispositif de campagne ?
Ah bien, c'est le scénographe des meetings. Hein. C'est lui qui crée les images les plus marquantes de la campagne, celles qui nous restent en mémoire encore aujourd'hui. Notamment hein, la fameuse image du Louvre le soir de l'élection. Ça, c'est Arnaud Jolens. Il est tellement important qu'Emmanuel Macron l'a embauché à l'Élysée, où il est chargé de mettre le quinquennat en images, comme nous l'a expliqué Julie-Marie Lecomte. C'est la journaliste de France Info qui suit Emmanuel Macron.
Arnaud Jolens est très étroitement associé à toute la mise en scène de la présidence. C'est un homme clé dans le dispositif. On a beaucoup parlé du Louvre. Un autre exemple, c'est un discours qu'Emmanuel Macron prononce qui doit être fondateur de la relance de l'Europe. On lui donne les grandes orientations politiques. Arnaud Jolens part à Athènes, repère plusieurs lieux, revient à l'Élysée, dit « je vous propose tel endroit, tel endroit, tel endroit, tel endroit ». Parmi les endroits, il y a la Pnyx, le lieu emblématique de la démocratie athénienne. En plus, Emmanuel Macron s'exprime à la nuit tombante, dans une lumière crépusculaire, le ciel est bleu nuit, l'acropole est illuminée derrière lui. Et cette image, elle est largement signée Arnaud Jolens.
Et voilà une image signée Arnaud Jolens, un homme qui a donc su se rendre indispensable, on l'a bien compris. Et ça, vous l'avez vu aussi dans les factures.
Oui, Arnaud Jolens est devenu l'un des hommes les mieux payés de la campagne présidentielle. En février 2017, hein, 3 mois avant l'élection d'Emmanuel Macron, il quitte Eurydice pour monter sa propre société. Et en 3 mois, il facture 75 000 € d'honoraires à l'association de campagne d'Emmanuel Macron.
Et vous avez interrogé l'Élysée sur Arnaud Jolens et les ristournes d'Eurydice et de tous les autres fournisseurs ?
Oui, nous avons envoyé 38 questions très précises à l'Élysée et à En Marche. Réponse : les comptes d'Emmanuel Macron ont été validés. Adressez-vous à la commission.
France Inter. Secret d'info.
Alors, on a vu comment un homme, Arnaud Jolens, était à la fois prestataire et membre de l'organisation de la campagne d'Emmanuel Macron, puis aujourd'hui le metteur en scène de sa présidence. On a vu que son ancienne société, Eurydice, avait accordé de grosses ristournes aux candidats d'En Marche, sans alerter la commission des comptes de campagne. Alors, voyons maintenant, justement, Élodie Guéguin, comment cette commission a pu passer à côté
d'autant d'anomalies?
Eh bien, selon nos sources, cette question des ristournes n'a pas été un véritable sujet au sein de la commission. Elle n'aurait été évoquée que très rapidement, en 10 minutes, lors d'une réunion avec toute l'équipe chargée d'examiner les comptes.
Et ce que vous nous avez également révélé, Élodie, c'est qu'en plus d'évacuer cette question, visiblement assez rapidement, la commission semble ne pas s'être appliquée ses propres règles en matière de rabais.
Oui, nous nous sommes procuré un document interne, le guide du rapporteur. C'est en fait le mode d'emploi fourni aux membres de la commission. Et dans ce fameux guide, il y a justement un chapitre sur les dons illégaux et les ristournes. Écoutez ce qui est écrit. Au-delà de 20% de ristournes, normalement, ça ne passe pas.
En principe, la commission admet que des rabais ou des remises puissent être accordés dans une limite maximale, comprise entre 15 et 20% du montant de la facture. Voici les contrôles à effectuer. Vérifier que les rabais ou les remises n'excèdent pas la pratique commerciale habituelle. Dans le cas contraire, engager une procédure contradictoire annonçant le rejet pour don de personne morale.
Donc ce qu'on comprend dans ce document, c'est qu'il y a une tolérance de la commission pour des rabais qui n'excèdent pas 15, 20%, mais qu'au-delà, eh bien normalement, ça devrait déclencher une procédure.
Oui, et d'ailleurs, si on prend un autre passage de ce document, la commission dit qu'elle peut accepter, dans certains cas, des remises plus importantes, mais à condition que ces remises soient accordées à tous les candidats. Or, on a vu que ce n'était pas le cas, et pour le président de l'association Anticor, Jean-Christophe Picard, les comptes d'Emmanuel Macron n'auraient jamais dû être validés.
Un tel compte de campagne présentant autant d'anomalies aurait dû être rejeté, avec une petite particularité pour la présidentielle, c'est que ce rejet de compte de campagne entraîne le non-remboursement des dépenses, mais il n'entraîne pas l'inéligibilité. Mais au moins, effectivement, on n'aurait pas remboursé avec de l'argent public un compte de campagne qui comporte autant d'anomalies. C'est la porte ouverte à toutes les dérives. Évidemment, quand les entreprises font des ristournes et des remises, c'est qu'elles espèrent avoir une contrepartie un jour ou l'autre, un renvoi d'ascenseur. Donc, il n'y a que dans le monde de Bisounours où les gens sont généreux à ce point sans espérer la moindre contrepartie.
Des ristournes sur lesquelles la commission aurait dû être beaucoup plus vigilante, dit le président d'Anticor. Mais alors, Élodie, comment expliquer un tel loupé de la part de la commission ?
Alors en fait, il faut savoir que la Commission nationale des comptes de campagne, elle n'a pas de pouvoir réel d'investigation, d'enquête. Et ça, on s'en est aperçu au moment de l'affaire Big Malion, les sous-facturations, vous savez, de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2012. La Commission n'a pas vu que le plafond autorisé des dépenses avait explosé de plus de 20 millions. Pour le professeur de droit Romain Rambaud, la Commission n'est pas suffisamment armée pour effectuer des contrôles sérieux.
La commission des comptes de campagne a des pouvoirs d'investigation qui sont quand même faibles. C'est un contrôle sur pièce, c'est un contrôle déclaratif. Ce n'est pas l'administration fiscale, elle ne peut pas faire de contrôle fiscal, la commission. Donc elle a des moyens assez faibles. Et il est vrai qu'elle est aussi tenue par des délais qui sont contraints. Donc au bout d'un certain moment, en général, quand elle estime qu'il y a des justifications suffisantes à une situation, elle arrête d'examiner et puis elle passe à la question suivante. Peut-être que le problème, il vient moins aujourd'hui des règles de fond, qui sont quand même assez claires finalement, que des modalités de contrôle.
Mais le problème, ce n'est pas la règle, mais plutôt la façon dont on applique cette règle, dit ce spécialiste du droit électoral. Bon, mais Élodie, avec tout ce que vous avez révélé cette semaine avec Sylvain Tronchet, est-ce que la commission, elle peut faire machine arrière ?
Alors son président, François Laugereau, a été très clair là-dessus. La commission a validé les comptes d'Emmanuel Macron et désormais, eh bien, elle n'a plus le pouvoir de revenir sur sa décision.
La commission a épuisé sa compétence en publiant ses décisions. Elles sont devenues définitives, elles n'ont pas été frappées d'aucun recours, aucune autorité ne peut les remettre en cause. Sauf, bien entendu, une enquête du parquet judiciaire, diligentée par le parquet, soit sur signalement de la commission, soit éventuellement sur dépôt de plainte d'un tiers, viendrait à mettre à jour des faits de nature pénale non prescrits, bien entendu. Mais la commission elle-même n'a pas les moyens juridiques de rouvrir le dossier.
Donc si je comprends bien, à moins que la justice, que le parquet ne s'auto-saisisse, ces révélations autour des ristournes de la campagne d'Emmanuel Macron ne feront l'objet d'aucune vérification, c'est bien ça ?
Effectivement, Benoît, et c'est ce qui fait dire au président d'Anticor, Jean-Christophe Picard, que ce système de contrôle des financements politiques est aujourd'hui défaillant et doit être entièrement rebâti.
Je ne suis pas le seul à avoir constaté quelque part le décès de la Commission nationale de contrôle des comptes de campagne. Elle est morte. Il faut évidemment remettre quelque chose en place avec des moyens un peu dignes de notre démocratie. J'ai pas l'impression qu'au niveau de la majorité, on soit dans cette logique. Je suis un peu inquiet parce que pour que le législateur modifie la loi, il faut quand même qu'il y ait une volonté de la majorité. Ce qui, très curieusement, on n'évoque pas ce débat-là. C'est la base de la démocratie, de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'abus pendant les campagnes électorales.
Y aura-t-il une volonté politique du législateur pour faire évoluer les choses, pour que les futurs comptes de campagne soient réellement tenus au cordeau? En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Merci Élodie Guéguin et Sylvain Tronchet pour cette enquête minutieuse que vous pouvez réécouter ou podcaster sur franceinter.fr ou sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi la commenter sur la page Facebook de Secret d'Info ou sur Twitter, Investigation RF. Un grand merci à Julie-Marie Lecomte et à Martin Broyer pour leur aide précieuse. Merci également à France Bleu Azur. Allez, restez avec nous. Dans un instant, nous allons vous dévoiler le premier secret de la France-Afrique. Yeah. Baby, don't make me spell it out for you. All of the feelings that I got for you. Can't be explained, but I can try for you. Yeah, baby, don't make me spell it out for you. You keep on asking me the same questions. Why? And second guessing all my intentions. Should know by the way I use my compression that you got the answers to my confessions. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotion, no sexual bender. Mess me up, yeah, but no one does it better. There's nothing better. That's just the way you make me feel. 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 Uh-huh. So good, so good, so fucking real. Uh-huh. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. That's just the way you make me feel. Me Feel, le son funk avec un petit air de Prince, extrait du dernier album de Janelle Monáe, Dirty Computer.
France Inter. Secret d'info, Benoît Colomba.
Alors nous recevons à présent Tristan Thil avec Vincent Bailly. Vous publiez une enquête en bande dessinée, Congo 1905, le rapport Brazza, le premier secret d'État de la France-Afrique aux éditions Futuropolis. Ce livre, c'est un coup de tonnerre dans l'histoire officielle de la France coloniale. Nous sommes au début du XXe siècle, en 1905. Et ce que vous racontez, Tristan Thil, c'est l'histoire véridique d'un homme, un explorateur qui s'appelle Pierre Savornian de Brazza, une légende de l'histoire coloniale, quelqu'un de très respecté, considéré comme un humaniste, un pacifiste. Et c'est donc cet homme qui est envoyé par le gouvernement français de l'époque pour enquêter sur des violences dans le bassin du Congo, au nord de Bangui, dans l'actuelle Centrafrique. À l'époque, c'est une colonie française. Et les choses ne vont pas se passer comme prévu.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, Braza est envoyé par le gouvernement de l'époque et le ministre des colonies pour enquêter sur une affaire en fait dont la presse s'est fait l'écho au début de l'année 1905, ce qu'on a appelé l'affaire Goetoké.
Goetoké, ce sont deux administrateurs coloniaux français sur place qui sont responsables d'exactions.
C'est ça, exactement. On sait qu'il y a eu énormément d'exactions commises par les coloniaux sur place, mais la particularité de celle-ci, c'est qu'elle est révélée par la presse et qu'elle choque l'opinion publique. Certains députés ont demandé une mission d'enquête au Congo qui va être confiée à Braza.
Et l'idée avec cette commission d'enquête, validée par le gouvernement français, l'idée quand même c'est que ça ne fasse pas trop de vagues. Hein. C'est-à-dire que le gouvernement français, en gros, dit à Pierre Savornion de Braza, vous pouvez enquêter mais sans condamner la violence du système colonial et sans parler du rôle joué par les grandes firmes sur place. Hein.
C'est ça. Alors, dans un premier temps, cette affaire Goetoké, elle ne peut plus être étouffée puisqu'elle a été révélée et que tout le monde le sait. Ce que le gouvernement demande à Braza de façon confidentielle, c'est en fait d'enquêter sur cette affaire en démontrant le caractère exceptionnel, disons, qu'il ne s'agit en rien d'un système généralisé, etc., etc. Et ce qu'il lui demande surtout, c'est de blanchir la réputation de la France dans les colonies. Et donc, Braza, en se rendant sur place, va au contraire découvrir une situation assez terrible sur ce pays qu'il a connu par le passé. Et il va le décrire dans son rapport Braza.
Ce que découvre Pierre Savornian de Braza, ce sont d'autres violences. Notamment, il est question de femmes, d'enfants enfermés dans des conditions absolument effroyables.
Voilà, donc ça, c'est une situation qu'il va découvrir notamment à Bangui, qui est en fait un système pour recruter des travailleurs, en fait, pour les faire travailler dans les plantations de caoutchouc notamment. Il va y avoir des véritables razzias, en fait, dans les villages, et on va enlever les femmes et les enfants, on les retient en otage pour forcer les hommes à travailler, en fait, dans les plantations. Et en échange d'une certaine quantité de caoutchouc délivré par eux, on va libérer les otages, enfin on promet la libération des otages. Ces otages-là sont enfermés dans des conditions effroyables, et notamment donc à Bangui. Et ce que Braza va découvrir, c'est que ce système-là, loin d'être une exception, est plutôt un système qui est assez généralisé dans la colonie.
Finalement, cet émissaire explorateur Pierre Savornian de Braza, il meurt avant d'achever sa mission, mais il confie toutes ses notes à l'un de ses proches collaborateurs. Une commission d'enquête se met en place, elle est censée tout mettre sur la table, sauf que tout ça est très gênant pour le pouvoir.
Oui, exactement. Alors, il confie ses notes, se sentant mourir, il confie ses notes à Charles Hoareau des Ruisseaux, qui est son bras droit, son plus fidèle collaborateur, et il lui confie la rédaction du rapport final à partir des notes qu'il a prises, enfin, lui et ses inspecteurs, pendant leur mission. Il y a une commission qui se réunit donc en 1906 et qui est chargée de rédiger ce rapport à partir des notes. Et en fait, on va éliminer un tas de choses qui sont dans le rapport de Braza et ses inspecteurs. Tous les témoignages en fait de Noirs sont considérés comme irrecevables par la commission, ce qui en enlève quand même un certain nombre. Donc en fait, la commission accouche d'un rapport qui est assez loin de celui qui est rédigé à l'origine par Braza et ses inspecteurs.
Et le gouvernement refuse de le publier, ce rapport.
Et malgré cela, donc malgré un rapport plus qu'édulcoré, le gouvernement va faire traîner les choses et finalement décidera de ne pas publier le rapport, puisque même comme ça, il est jugé trop scandaleux. Voilà.
Et ce rapport de la commission d'enquête, même édulcoré, il va tomber dans les oubliettes. Finalement, ce rapport, qu'on croyait à jamais disparu, il a été retrouvé par une historienne dans les archives. Et c'est grâce à ça que vous pouvez raconter cette histoire.
Exactement. En fait, il y a Catherine Cocry-Vidrovitch, donc, qui est historienne, elle découvre le rapport Braza. Et donc, elle me dit, il y a le rapport tel qu'on le connaît qui vient de la commission finale. Mais elle me disait, si tu veux la vérité sur le rapport Braza, il faut aller chercher dans les notes personnelles de Braza, puisque c'est là qu'en fait, il y a la source première. Et dans les archives d'Outre-mer à Aix-en-Provence, je me suis retrouvé face à 5 ou 6 gros cartons remplis de notes et de documents de toute nature. Il y a pas mal de choses qui sont citées, mises en scène dans la bande dessinée, qui en fait proviennent des notes privées de Braza. L'idée, c'est un petit peu de faire parler les silences de l'histoire, et donc on sait maintenant que c'est disponible. Et ça, c'est important et ça, c'est intéressant, à la fois pour une partie de l'histoire de France, mais aussi pour une partie de l'histoire de l'Afrique elle-même, puisque ce rapport en fait partie. Le récit s'appelle « Le premier secret d'État de la France-Afrique ». Alors, je sais bien que la France-Afrique, c'est un concept qui arrivera beaucoup plus tard, avec la fin de la colonisation, le néocolonialisme, les réseaux français en Afrique, Focard et compagnie. Enfin voilà, c'est encore une autre histoire. Mais disons que ce que dénonce Braza dans son rapport, et ce qui est intéressant, en fait, il met en lumière un système qui allie force armée, corruption et intérêts privés, qui fonctionnent ensemble, si vous voulez, pour exploiter un territoire et une population. Et en fait, bon, là, on est en 1905, on est dans un contexte de colonisation, donc c'est assez clairement un rapport de dominant-dominé, mais il y a déjà ce système qui se met en place et qu'on va retrouver plus tard. Alors ce sont d'autres noms, c'est d'autres compagnies, c'est d'autres matières premières, mais c'est toujours un petit peu la même chose.
C'est un peu comme si vous aviez voulu lever le couvercle d'une partie de l'histoire coloniale française, déjà documentée, mais il y a encore, pour reprendre votre expression, des silences de l'histoire, de cette histoire.
Oui, il y a plus qu'un silence. Je fais partie des gens qui pensent que c'est important d'avoir les éléments, de connaître vraiment factuellement les choses. La question de l'histoire coloniale française, c'est toujours quelque chose, c'est toujours un sujet qui est assez compliqué à aborder. Il est difficile d'en parler sans fatalement prendre position ou en tout cas être vu comme partisan de la colonisation ou justement anti-colonialisation. Alors que nous, ce qu'on essaye d'y voir, c'est simplement des faits historiques. Et ce qui est important, c'est d'avoir la connaissance de l'intégralité de ces faits historiques. On peut la juger, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est de la connaître sous tous ses angles.
Merci Tristan Thil. Je rappelle le titre de votre livre avec Vincent Bailly, Congo 1905, le rapport Brazza, le premier secret d'État de la France-Afrique aux éditions Futuropolis. Et merci à notre bureau de Marseille pour la liaison technique. C'est la fin de Secret d'Info. Merci à Martin Broyer qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à notre réalisateur Christophe Imbert. Merci à Stéphane Boja et à Loïc Frapsos à la technique aujourd'hui. Et merci à Jean-Baptiste Audibert pour la programmation musicale. Dans quelques instants, vous retrouverez Denis Chessou, CEO de Mon Amour, avec un retour sur l'actualité environnementale dans la francophonie. La cellule investigation de Radio France revient samedi prochain. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.